Alors, quel est le thème de l'année scolaire? L'Église et moi. Comment vivre dans mon Église? Qu'en dit la Bible? C'est un thème réfléchi par le collège pastoral qui ressent le besoin de développer la vie d'Église. On ne va pas faire une discussion sur la doctrine de l'Église. Je vous donnerai quelques éléments ce soir de définition, mais ce sera tout. Et on va simplement s'intéresser à la manière de vivre en Église. Alors nous avons hésité dans le titre entre mon Église et moi, pour bien personnaliser, mais on s'est dit que ça faisait trop de moi. Ceci dit, on a voulu mettre le moi parce que c'est bien de l'implication de chacun d'entre nous dans l'Église dont il est question. Le titre exprime donc une approche personnelle, pratique et non doctrinale. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étudier la Bible, puisque nous verrons tout à l'heure, dans la Bible, il y a de nombreuses recommandations sur la vie pratique de l'Église. D'ailleurs, beaucoup plus sur la vie pratique que sur la définition de l'Église. Il y en a aussi, bien sûr. Alors, bien sûr, il s'agit de l'Église locale dans notre propos et pas de l'Église universelle. Voilà. Alors, j'ai parcouru quelques dictionnaires, quelques lexiques, et je vais essayer de vous en donner quelques éléments. Alors, tout d'abord, le mot ecclésia. Ça s'écrit comme ça, oui. Enfin, sauf que c'est pas en vocabulaire, enfin, c'est pas en alphabet latin, mais en alphabet grec. C'est un mot grec. Et alors, c'est pas pour étaler une quelconque science que je n'ai d'ailleurs que très peu, mais c'est pour parler de quelque chose dont on parle souvent. On dit souvent ecclésia, ça vient de ec et de kaleo, c'est-à-dire appelé hors d'eux. C'est l'étymologie du mot, effectivement, mais l'étymologie, on est dans le cas où elle n'explique pas grand-chose du mot lui-même, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, finalement. Le mot vient de l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a été pour la plupart écrit en hébreu, et que du temps de Jésus, un peu avant, il y avait une traduction grecque qui était utilisée par les juifs, qui autour du bassin méditerranéen parlaient plus volontiers le grec, pour ceux qui étaient dispersés autour du bassin méditerranéen et pas en Israël, parlaient plus volontiers le grec. Et alors ce mot ecclésia est utilisé pour traduire un terme de l'Ancien Testament que l'on va traduire par assemblée. C'est-à-dire, quand le peuple se rassemblait pour une fête, une solennité, une fête religieuse, eh bien, c'était une sainte convocation pour ceux qui sont habitués au vocabulaire de Louis II. Et c'était le kahal en hébreu, et la Septante, donc cette traduction grecque, a utilisé le mot l'ecclésia. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament traduit en grec, il y a de nombreuses fois ce mot ecclésia, qui ne veut pas dire église, qui veut dire l'assemblée. Ce mot est voisin d'un autre mot qu'on connaît aussi, c'est synagogue, la synagogue, c'est-à-dire le fait de se rassembler. Ben précisément, dans l'Ancien Testament toujours, ce mot traduit, l'Ancien Testament grec, ce mot traduit un mot hébreu qui veut dire la communauté d'Israël, le peuple d'Israël. Et au temps de Jésus, le mot synagogue était utilisé pour désigner les lieux de rencontre des juifs autour du bassin méditerranéen. Le mot ecclésia, lui, a été pris par les chrétiens, par les premiers chrétiens et par Jésus lui-même avant ça pour désigner l'assemblée des chrétiens. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église » dans Matthieu 16, c'était bien « Je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée, les gens qui vont se rassembler autour de moi ». Et c'est ce qui a donné lieu à notre mot français « église » qui vient tout simplement de ce mot « ecclésia ».
Je ne sais pas ce que ça veut dire « étymologie ».
Étymologie, ça veut dire l'origine d'un mot. Ouais. Alors, la définition du dictionnaire. Oui.
Tu pourrais
Ah, j'ai oublié. Eda. Eda. Comme le prénom d'une personne qu'on connaît, là. Eda. Bah, en français, ça fait un seul D, je pense. Oui, plutôt un seul D, oui. Avec un H à la fin, si tu veux. C'est mieux. Sans dire qu'on le prononce, d'ailleurs. On ne prononce pas. On dit pas Eda, on dit Eda. Alors, j'ai ensuite regardé pour une deuxième définition. Quand je disais que l'étymologie du mot ecclésia n'explique pas tout, c'est qu'appelé hors d'eux, en l'occurrence, les Israélites, quand ils étaient en ecclésia, n'étaient pas appelés hors d'eux, ils étaient réunis au contraire. Après, il y a un sens, une utilisation politique du mot ecclésia qui désigne une assemblée qui s'est réunie pour délibérer, une assemblée politique dans la culture grecque. Alors là, on peut aussi dire qu'elle s'est réunie, qu'elle est sortie du train-train quotidien peut-être, et qu'elle a répondu à une convocation, soit, mais encore une fois, c'est pas du tout pour illustrer, par exemple, que ce que Jésus va dire, et ce qui est vrai par ailleurs, que nous sommes hors du monde. C'est pas le sens du mot ecclésia, puisqu'il est utilisé pour désigner, en grec classique, une assemblée réunie pour délibérer au nom du peuple. Donc c'est pas hors du peuple. Comme quoi, il faut quand même parfois se méfier de l'étymologie, au moins d'une utilisation aveugle de l'étymologie. Définition maintenant, j'y arrive du nouveau dictionnaire biblique. Alors, c'est quand on dit le nouveau, c'est le bon vieux dictionnaire biblique, hein, parce qu'il est plus nouveau, il devrait quand même changer le titre, il y a quelques dizaines d'années. L'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent de façon vitale à Jésus-Christ. Je répète, l'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Alors, on est devant une définition évangélique, hein, le nouveau dictionnaire biblique, c'est un dictionnaire évangélique, c'est pour ça que je l'ai choisi, bien sûr, et qui désigne là l'Église universelle. Hein, c'est bien quelque chose qui désigne à la fois nous ici, mais aussi aux États-Unis, partout en Asie, etc. Et l'article continue et dit que cette Église est spirituelle, elle est composée de gens régénérés par l'Esprit, et elle est universelle. Alors, vous savez, dans le symbole des apôtres, nous croyons à la Sainte Église universelle. Et nos amis catholiques disent catholique, parce qu'en fait, ils ne font que translittérer le mot grec catholikos, qui veut dire universel. Mais aujourd'hui, catholique ne veut pas dire universel, ça veut dire catholique, au sens de la confession chrétienne. Donc là, il y a un débat entre deux versions du symbole des apôtres. Sur ce mot. Et nous disons universel, et je crois que nous avons raison de le dire comme de cette manière. Et l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui est la communauté de tous les croyants, est universelle. Elle est partagée dans toutes les régions du monde et dans tous les temps du monde. Alors, souvent on dit qu'elle est invisible. J'ai réfléchi un petit peu à ça, et c'est un peu sévère de dire qu'elle est invisible. Elle est visible, mais pas dans son entier. Elle est visible. Elle est perceptible, mais toujours de manière parcellaire, de manière extrêmement locale, imparfaite, toujours au travers de manifestations locales. Alors ensuite, je me suis intéressé à un autre auteur cher à notre association baptiste, enfin je dis autre, c'est le premier que je cite, c'est Robert Dubarry. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Pour faire connaissance avec un idéal d'église ». Et je suis allé me replonger dans ces lignes, rédigées de manière très, très littéraire. Et je me suis dit que ça vaudrait la peine d'en lire quelques extraits. Vous allez comprendre, enfin, du moins j'espère que vous adhérerez à ce choix que j'ai fait. Alors, tout d'abord, l'église locale possède les caractères d'une société humaine. C'est surprenant de lire cela. Alors, il y aura un deuxième volet. L'église locale, et là on est bien dans l'église locale, hein. Le deuxième volet, ce sera l'église locale répond à une intention divine. Premier volet. Alors c'est pour ceux qui ont le livre chez eux, c'est la page 38. Enfin, je vais prendre la page 39, je ne vais pas tout lire. Dans le Nouveau Testament, la marche pratique des assemblées nous donne toujours l'impression d'être non pas l'accomplissement d'instructions divines déterminées, mais une adaptation à des circonstances spéciales. Et quelle souplesse dans cette adaptation ! Les assemblées se tiennent suivant le besoin dans les maisons, dans les synagogues, dans l'enceinte du temple, sur la place publique, dans des salles d'école, dans des lieux de captivité, dans des chambres hautes mises ou non à part. Pardon. Elles ont lieu le matin, ou en plein jour, ou dans la nuit. Elles sont régulières ou extraordinaires, et elles traitent de l'édification ou des questions pratiques. Ici, on y entend un seul discours. Là, plusieurs. Ailleurs, s'ajoutent des messages en langues diverses, des interprétations et d'autres choses encore. La scène s'y célèbre ici tous les jours, là chaque semaine, ailleurs encore accidentellement. Ici le soir et ailleurs à une heure indéterminée. Les assemblées sont ou beaucoup ou peu suivies. Les dons y varient à l'extrême. Certaines semblent conduites par un seul surveillant, d'autres par un corps d'anciens. Ici la communauté se prononce d'elle-même. Là-bas, elle subit l'influence des apôtres ou de ses leaders. Dans certains cas même, elle doit suivre implicitement leurs ordres. Telle fonction résulte ici du choix d'un apôtre ou d'un délégué d'apôtre. Là, elle résulte du seul choix de l'assemblée, choix fixé, soit sur la présentation des conducteurs, soit spontanément. Telle église ne semble pas avoir de frères consacrés aux affaires matérielles en qualité de diacre. Telle autre en a besoin et en choisit. Telle autre encore, après s'en être passé, sent la nécessité d'en nommer. Ici, l'assemblée reçoit des aumônes. Là, elle en donne. Ailleurs encore, elle n'en prend légitimement aucune à charge. Ici, des femmes ont un certain rôle public. Là, elles n'en doivent avoir aucun. Et non seulement le Nouveau Testament présente sur certaines questions une grande variété de pratiques différentes, mais il manque encore absolument de précision sur une quantité d'autres points, pourtant très importants. Où sont les règles pratiques et universelles de l'Écriture sur le programme, la variété, la fréquence, la marche des réunions, sur les conditions accessoires de la célébration de la scène, sur la forme exacte, les objets et l'endroit de l'imposition des mains, sur les fonctions et le nombre de diacres et de diaconesses, sur la durée, le caractère précis et l'étendue de divers autres ministères. Encore un paragraphe. De pareilles variantes et de telles omissions donnent la mesure de la liberté dont jouit l'Assemblée pour régler sa marche pratique selon les besoins du lieu. À ce point de vue, l'Église la mieux guidée ne sera donc point celle qui imitera le plus servilement des traits obscurs ou fragmentaires du Nouveau Testament, mais celle qui, dans l'esprit des Écritures, s'adaptera le plus intelligemment à ses circonstances particulières. Il est tout aussi peu indiqué de chercher à tout prix une conformité scripturaire détaillée dans le domaine ecclésiastique qu'il le serait de nos jours de se laisser obséder par le désir de régir les familles conformément aux précédents patriarcaux ou de gouverner les nations suivant le type de l'État juif au temps du roi David. Les Écritures ont pour ainsi dire épuisé leur désir de régir lorsqu'elles ont établi les principes de conduite nécessaires aux individus. Pour le régime des collectivités, elles s'en rapportent à la forme la plus favorable au bien spirituel et à l'activité de leurs membres ainsi qu'à l'esprit chrétien. J'ai trouvé ce texte étonnamment actuel, parce que, en tout cas au niveau du collège pastoral, mes frères, j'espère, ne me contrediront pas, nous sommes souvent dans cette réflexion, comment vivre l'Évangile aujourd'hui en tant que communauté. Il ne s'agit pas de transformer l'Évangile, mais de le vivre aujourd'hui. Et M. Dubarry, dans ce texte, nous indique toute la variété qui existe dans le Nouveau Testament concernant la vie pratique de l'Église et notre responsabilité, du coup, de faire les choix qui sont conformes à la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Alors ensuite, l'Église locale répond à une intention divine. Il ne faut pas non plus dire que l'Église ne serait qu'un genre de club de gens très bien, mais quand même, non, il y a une visée verticale dans l'Église, bien évidemment. Alors, Monsieur Dubarry, alors je ne vais pas lire, parce que ce serait quand même un peu fastidieux. Ceci dit, c'est les pages suivantes, je vous y renvoie. J'ai lu jusqu'à la page 40, presque jusqu'en bas. Et donc les pages 41 et 42, nous avons notamment ce qu'il appelle l'instinct social. Ça m'a beaucoup amusé de trouver cette expression de l'instinct. L'instinct social, c'est la mise en œuvre de lois que Dieu a gravées dans nos cœurs et que nous allons mettre en œuvre non pas parce que nous aurons tel verset qui nous dit que le culte doit être à telle heure ou de se dérouler de telle manière, mais parce que nous pensons que selon la volonté de Dieu, c'est juste. Cet instinct, il le met en premier dans l'intention que Dieu a pour son Église. Il place en nous cet instinct. Alors on pourrait dire social, on pourrait dire, enfin lui le dit, on pourrait dire spirituel aussi, un instinct spirituel, où on ne va pas forcément avoir une réflexion, mais poussée, mais une première idée qui viendra de cette action que Dieu grave dans nos cœurs, de cette loi spirituelle que Dieu grave dans nos cœurs, et qui ne rentre pas dans le détail, mais qui donne des lignes directrices. Ceci dit, quand même, en deuxième point, il parle du recours continuel, je cite, « recours continuel aux directions bibliques ». J'aime bien le mot « direction » et pas « directive », puisqu'il vient d'expliquer qu'il n'y a pas forcément de directive sur tout et tous les détails de la vie communautaire. En revanche, il y a des directions, des principes, des axes majeurs. Et c'est ce recours continuel, cette analyse que nous devons faire et refaire des axes, des directions que la Bible nous donne, qui est notre responsabilité. Et puis, en dernier lieu, il parle de constatations historiques. Et il revient à ce qu'il disait tout à l'heure sur la grande latitude dont nous jouissons dans l'organisation des églises. Et il dit qu'au cours de l'histoire, et il cite quelques exemples, au cours de l'histoire, Dieu a laissé de la liberté à son peuple et a même béni des choses qu'il n'avait pas ordonnées. Par exemple, dès sa rentrée en Palestine, il conserva cette coutume et la synagogue devint dans chaque localité le rendez-vous des gens pieux et l'école habituelle de la région. Et puis, M. Dubarry dit que Dieu a béni ce genre de choses, ce genre de lieux, même si quelquefois il y avait aussi, on voit dans le Nouveau Testament, des paroles regrettables qui étaient dites dans ces lieux, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses faites dans ces écoles, dans ces synagogues. Où Dieu commande-t-il qu'il y ait des synagogues? Et partant de ce genre de constat, l'auteur nous conduit, à ne pas hésiter à inventer des choses, et c'est ce qui a été fait pour l'Église. Je parlais de l'école, mais l'école du dimanche, où est-elle commandée dans la Bible? Où est-elle prescrite par Jésus lui-même? Et même nos bâtiments d'église, où sont-ils? Où en avons-nous le fondement scripturaire? Nous n'en avons pas. Et pourtant nous le faisons et nous avons raison de le faire. Et puis la liste pourrait s'allonger de choses dont il dit qu'elles sont bonnes, et c'est pas parce qu'elles ne sont pas commandées qu'elles ne sont pas bonnes. Alors, là, mon titre, j'aurais peut-être pu trouver mieux, « Appartenir à l'Église et appartenir à l'Église ». C'est l'idée de l'appartenance, enfin, ça vous l'aurez compris, je pense, l'idée de l'appartenance qui me préoccupe dans ce titre. Nous sommes des églises de professants, hein, d'un côté, et je suis baptiste par choix et par conviction, et je suis intimement persuadé que c'est une forme d'église qui est juste d'être des églises où, pour en faire partie, il faut le demander. Et quand on le demande, ça veut dire qu'on professe sa foi, et c'est le sens de « église de professant ». Ceci dit, nous avons, et nous en avons déjà parlé dans d'autres occasions, nous avons un autre vécu autour de nous de l'Église. J'ai entendu une fois ou l'autre des gens se réclamer de notre Église sans être, en tout cas autant qu'on puisse en juger, sans être chrétien. Mais simplement parce qu'ils avaient l'habitude de venir de temps en temps ou même régulièrement à l'Église, y faire ceci, y participer à cela. Et du coup, bah, mon Église, c'est la bonne nouvelle. Mon Église, c'est ceci, cela. Et ce n'est pas quelqu'un qui est membre d'une Église de professants, il participe. Et il fait partie de la communauté que nous formons au sens humain du terme, pas au sens spirituel, encore que la frontière est bien difficile à établir, mais au sens humain. Et prenons le cas des enfants, par exemple. Nos enfants, ceux d'entre nous qui en ont, ou même ceux, enfin, les enfants de notre communauté, ne font pas partie de l'Église au sens spirituel du terme. Pouvons-nous dire pour autant qu'ils ne font pas partie de l'Église au sens humain du terme, quand nous faisons une présentation d'enfants? Quand, en tant que pasteur de l'Église, je prends un enfant dans les bras, c'est bien pour dire que, quelque part, il fait partie de la communauté. Pas au sens appartenir à Jésus-Christ, nous souhaitons que ça devienne très vite le cas, mais ce n'est pas l'enjeu de ce genre de présentation, c'est de dire, nous l'aimons, nous le faisons notre à tous, c'est notre enfant à tous, nous en sommes tous un peu responsables, sans vouloir remplacer le rôle parental, bien évidemment. Donc vous voyez, cette notion d'appartenance à l'Église, elle est complexe. Elle est, en tout cas, il faut qu'elle soit très claire. Il y a d'un côté le fait que nous sommes une Église de professants à laquelle on appartient de manière formelle par la profession de foi, par la confession de foi, et l'autre, cette communauté humaine dans laquelle Pierre, Paul et Jacqueline viennent et vont sans qu'on puisse tout à fait juger, et qu'on ait à le faire d'ailleurs, s'ils sont convertis, pour prendre un mot dont nous avons l'habitude, ou pas. On peut appartenir à notre Église, à une Église locale, sans faire partie de l'Église universelle. Et là, ce appartenir, c'est au sens humain, au sens social du terme. Et c'est même, pourrions-nous dire, une des missions de l'Église. Que des personnes appartiennent au sens humain du terme, pardon, parce qu'il fait bon venir chez nous. Parce que nous savons être de bons amis. Des gens accueillants, des gens qui font des activités qui ont du sens et pour lesquelles on a envie de nous rejoindre. Des gens qui ont des valeurs, qui respectent l'être humain, qui ont de belles relations entre eux. Si nous avons nous donnons de la sécurité aux gens qui viennent nous voir, ils sont bien quand ils viennent, mais alors ils vont venir, sans nécessairement avoir encore, et s'ils le font un jour, nous n'en savons rien, fait profession de foi. Appartenir à l'Église, vous aurez compris maintenant, et appartenir à l'Église. Pour moi, c'est une définition de l'Église locale, cette appartenance. Parce que l'Église est définie par les personnes qui la composent. Bien au-delà, bien sûr, sans oublier, pardon, qu'au-delà, il y a le... Elle est définie par Jésus lui-même qui est la tête du corps. C'est de cette manière que j'en arrive à la nécessité d'avoir des relations. Tout à l'heure, j'ai dit une église qui fait envie. Je lirai tout à l'heure un petit extrait d'un autre livre, plus récent que celui de M. Dubarry. Cette idée des relations, elle est très importante. J'ai mis deux mots. J'ai mis le culte, j'ai mis les relations. Pour être une église qui accueille, qui est, dans laquelle on vient parce qu'on y trouve des choses. Le culte, parce que je crois que le culte est un lieu d'expression de notre église, et ça c'est l'expression verticale de notre foi. Vous aurez compris que les relations entre nous et autour de nous, que nous ouvrons vers les autres, c'est une expression horizontale de notre foi. On passe maintenant à un mot, un chapitre, que j'ai appelé nécessité. Je pose la question, à quoi sert l'Église ? parce qu'on peut, on peut dire qu'elle sert à résoudre ensemble les problèmes qu'on n'aurait pas si on n'était pas ensemble. On dit ça du couple. C'est pas faux d'ailleurs. Il y a des tas de problèmes qu'on n'aurait pas si on n'était pas ensemble. Mais il y a des tas de bonnes choses qu'on n'aurait pas et qu'on ne ferait pas si on n'était pas ensemble aussi. Alors, trois ou quatre textes de la Bible vont maintenant retenir notre attention. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est tout simplement ce que j'ai appelé l'idée communautaire. L'idée communautaire, c'est-à-dire comment l'Église est-elle pensée par Jésus. Alors bien sûr que nous allons prendre, je crois que je l'indique, oui, Matthieu 16, qui est un texte important de l'évangile de Matthieu. C'est le moment, je me permets de vous le rappeler, mais vous le savez sans doute, où Pierre, où Jésus a suscité la confession de Pierre, quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est après cette affirmation de Pierre, qu'on appelle la confession de Pierre, que Jésus va donner cette phrase que vous avez à l'écran. À propos de cette, après cette déclaration, il dit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » C'est un verset au vocabulaire simple. « Je construirai. » Et puis le mot « Église », on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, il y a pas mal de discussions. » Mais je vais laisser ça de côté pour donner quelques éléments en risquant peut-être un ou deux raccourcis sur ce verset. Premièrement, je construirai. C'est Jésus, le constructeur. Deuxièmement, c'est bien son Église qu'il construit. Donc c'est une église, c'est une communauté, une assemblée qu'il construit, et elle est à lui. Non seulement il en est le constructeur, mais c'est la sienne. Il va la garder après l'avoir construite. D'ailleurs, elle est toujours en construction. Troisièmement, église. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que le mot église, à ce moment-là, dans le judaïsme, pouvait avoir l'idée, donner l'idée d'un nouveau peuple. C'est presque l'idée du rassemblement. Je rappelle que le mot ecclésia dans la traduction des Septante, c'était le groupe des personnes convoquées pour une solennité, par exemple. On imagine Jésus dire ça, c'est très fort. C'est beaucoup plus ça, cette communauté des croyants réunis autour du Messie, c'est beaucoup plus ça qu'un bâtiment, hein. Le mot « église » dans le Nouveau Testament ne veut pas dire « bâtiment ». Il ne désigne pas le bâtiment. Et puis, c'est le mot « construire ». Alors, le mot « construire » est très important dans le Nouveau Testament. Quand Paul, vous savez, quand il discute avec les Corinthiens, et qu'il dit, est-ce que ça, à propos du parler en langue et de la prophétie, et il dit « qu'est-ce qui édifie ?» Mais c'est le mot « construire. Qu'est-ce qui construit ? Et l'apôtre Paul est toujours en train de... Enfin, il est constructeur avec Jésus, quoi. Et nous le sommes avec lui. Nous verrons ça dans un texte d'Éphésiens. Prenons-le tout de suite, d'ailleurs. Éphésiens 2, verset 20. La lettre aux Éphésiens, je vais la citer à deux endroits différents. Pour notre sujet, elle est importante. Alors, c'est au verset 20 du chapitre 2 que je voudrais m'arrêter. Et là, qu'est-ce que Paul utilise ? Vous avez été construit. Vous avez été construit sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes. Je rappelle que apôtre, on sait qui c'est, mais l'Église primitive avait aussi des prophètes. On connaît très peu les noms, mais fonction prophétique était assez bien identifiée. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée, s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Alors voilà la première idée, c'est que l'idée communautaire, elle est, alors pardon pour le terme, mais intrinsèque à l'appel de Jésus. C'est-à-dire, ça fait partie. On ne peut pas dire, non, Jésus, il a appelé des individus tout seul. Jésus a appelé, il construit un peuple. Pas des individus en des électrons libres. Un peuple, une assemblée. C'est ça que Jésus construit. Et quand vous lisez le développement de Paul aux Éphésiens, Paul l'a tout à fait compris, puisqu'il parle d'une construction bien coordonnée. Donc il enfonce le clou encore. Bien coordonnée, ça veut dire que l'édifice se tient, que c'est solide, que les pierres ou les poutres, enfin tout se tient, c'est ensemble. Donc ça suggère des relations entre chrétiens, une vie de peuple et de communauté parmi nous. Si d'aventure nous étions tentés de dire ma foi, et je l'entends, enfin, vous aussi d'ailleurs je pense, certaines personnes qui, peut-être un peu fatiguées par les complications qu'on peut avoir dans une vie de communauté, ça peut s'entendre, mais qui vous disent, moi ma foi je la vis tout seul. Mais c'est une foi amputée. La foi en Jésus, c'est une foi communautaire. Nous évangéliques, nous avons lourdement insisté, et nous avons eu raison, sur la conversion personnelle. Mais à trop insister sur la conversion personnelle, individuelle, relation personnelle avec Dieu, on pourrait en oublier, et on l'a fait sans doute, l'importance de la communauté. Le poids que la communauté a dans ma foi. Voilà pour la première nécessité de l'Église, elle est intrinsèque à l'appel que Jésus nous appelle. Nécessité de vivre en Église. Alors là, jeu de mots à deux balles, pardon, hein, mais j'ai pas résisté. On s'aime. Alors, Jean 13, 35. Qu'est-ce que c'est que ce Jean 13, 35 ? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Et le verbe semer, on sème, la deuxième partie, c'est semer la connaissance de celui dont nous sommes les disciples. Donc, le fait que nous nous aimions nécessite quelque chose. Hein. C'est qu'on soit ensemble. Aimez-vous les uns les autres, mais ne vivez pas ensemble, n'ayez aucune relation. Bien sûr que ce n'est pas possible. Pour obéir à ce commandement de Jésus, nous devons avoir des relations. Cela, c'est évident. Et quand je dis « on s'aime », le verbe aimer, c'est interprété ici par Jésus comme un, ou du moins c'est présenté ici par Jésus comme un message que nous donnons à nos contemporains. Et tous, qu'est-ce qui est dit ? Tous sauront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que nous semons la connaissance de Dieu par la manière dont nous construisons nos relations dans la communauté. C'est quelque chose que je disais tout à l'heure d'une autre manière quand je disais que les relations entre nous, c'est une expression horizontale de notre foi. Et là, on y ajoute cette idée que c'est un message donné autour de nous. Voilà une des fonctions de l'Église et une nécessité de vivre en Église pour donner ce message. C'est qu'à vivre tout seul, on ne peut pas aimer les autres. C'est une fonction de témoignage peut-être éloignée de certaines de nos pratiques. Quand nous sommes centrés, traditionnellement, encore une fois, dans nos milieux, et nous avons raison, nous sommes même réputés pour ça, nous sommes centrés sur l'évangélisation au sens de la proclamation du message de l'Évangile. Il nous faut, alors on disait ici, par la page imprimée, hein, je dis ici parce qu'il y avait à côté, il y avait magnifique imprimerie, on a imprimé des millions de choses, il fallait annoncer, il fallait publier la bonne nouvelle, et il faut toujours d'ailleurs. Et plaise à Dieu que la Bible reste le livre le plus imprimé au monde, et le plus lu aussi, j'espère. Voilà. Néanmoins, ce que Jésus dit ici, c'est pas ça. c'est les relations que vous aurez entre vous vont être donner envie aux gens de connaître le maître. Tous sauront que vous êtes mes disciples. Mais c'est une autre forme d'évangélisation, sauf qu'il n'y a pas de calcul. Là, on va faire semblant d'avoir de bonnes relations pour que la personne se convertisse. On n'en est pas là, hein. Mais c'est que nous devons avoir des relations authentiques, crédibles, de manière à ce que lorsque des gens nous visitent, ils puissent percevoir quelque chose de l'action de Dieu dans nos vies et dans nos relations. Alors, franchement, c'est drôlement difficile, ça. Et c'est très prétentieux aussi de dire, regarde, on va bomber le torse et on va dire, regardez comme on s'aime, hein, on est formidable. Ça conduit à des tas de pièges, finalement, sauf si on reste sincère, et si on ne calcule rien, et si on obéit à Jésus. Simplement, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la on s'aime. Alors, troisièmement, au boulot. Un autre texte qui montre que l'Église est une nécessité pour accomplir l'appel de Dieu. J'ai choisi de nouveau un texte d'Éphésiens, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Alors, cette fois, c'est Éphésiens 4, 11. Alors, je vais lire à partir du verset 11, mais ce n'est pas le verset 11 qui m'intéresse le plus. C'est lui, c'est Jésus, hein, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, alors apôtres et prophètes, ils étaient cités tout à l'heure, je n'y reviens pas, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, alors moi j'ai ça dans ma traduction, je crois que c'est évangéliste dans les traductions dont on a plus l'habitude, d'autres comme bergers et maîtres, alors bergers et maîtres, pasteurs et docteurs. Il ne faut pas oublier que le mot pasteur, c'est un mot peu courant dans le Nouveau Testament, et c'est le berger, quoi, hein, c'est la fonction pastorale, c'est-à-dire le berger. Et maître, c'est celui qui enseigne. Donc docteur, c'est dans ce sens. Afin de former les saints, donc les saints, les chrétiens, pour l'œuvre du ministère. Alors là, j'ai mis la traduction à l'écran, la traduction en français fondamentale, pour accomplir notre service de chrétien. Et c'est pour ça que j'ai marqué au boulot. Parce qu'on a du boulot dans ce monde, pour accomplir notre service de chrétien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est cette idée du service. Nous avons besoin de nous consolider. Alors, je reviens sur le service. Le service n'est pas défini. On ne sait pas si c'est vers l'extérieur, en interne. Ce qui est dit, c'est que nous devons être consolidés, être formés, verset 12, afin de former les saints, les chrétiens, pour le service. Et ça, c'est une fonction qui est communautaire. J'ai choisi en tout cas ce texte pour exprimer cette idée que l'Église, c'est un atelier. C'est un lieu où l'on se forme, où l'on prépare, où l'on aiguise, où l'on répare peut-être. C'est un lieu qui nous aide à remplir notre fonction dans ce monde.
L'édification du corps de Christ, le service, il est désigné.
Alors, pour la construction du corps de Christ, oui. Alors, justement, merci Claude, tu parles de la construction du corps de Christ, mais après, il est question de la croissance. Alors, construction et croissance, c'est à peu près pareil. Oui, j'aurais dû le lire jusqu'au bout, d'ailleurs. Je vais le lire. Verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus de tout petits, des tout petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. » En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Qui dit construction dit croissance, hein, les deux mots sont utilisés. C'est pour ça que je ne savais pas trop dire, mais tu as eu raison de m'encourager à poursuivre la lecture. De quel service il s'agit, c'est quand même très général. L'idée de construction, de croissance, le corps se développe, suggère que ce corps s'ouvre vers, accueille, est en relation avec l'extérieur, n'est pas un genre de vase clos. Il y a des nouveaux venus qui viennent agrandir le corps, c'est ce que le Seigneur ajoute à l'Église. Construire le corps de Christ. Alors, je vais vous lire, pour terminer ce point sur la nécessité d'être en Église, un livre qui s'appelle « Une Église rayonnante » par Jonathan Hanley. Alors c'est quelqu'un qui, malgré son nom anglais, vit en France, qui a été engagé dans une association de lutte contre le sida et ses tristes conséquences. Alors je vais vous lire la conclusion, hein. Vous voyez, je suis tout à la fin du livre. Une page. 10 ans d'engagement chrétien dans la lutte contre le sida ont fait naître en moi un rêve. Alors, il n'y a pas que Martin Luther King qui a un rêve, il y a aussi lui. Celui d'une église qui attire les blessés de la vie sans leur demander de rendre compte de leurs blessures. Ce serait une communauté de personnes de tous âges, réputées pour leurs relations empreintes de grâce. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Où l'individu en lutte avec son homosexualité ou une dépendance alcoolique serait autant considéré que celui qui lutte contre la colère ou l'égoïsme. Dans cette église, l'engagement d'un chrétien serait mesuré tout autant par le temps qu'il ou elle passe auprès des personnes âgées et des enfants, des malades et des handicapés, des pauvres et des personnes sans éducation, que par sa fidélité aux réunions. La même rigueur morale serait attendue d'un membre du conseil d'administration menacé par l'orgueil ou l'esprit de manipulation que d'un jeune couple aux prises avec la tentation sexuelle. Les célibataires seraient valorisés pour autre chose que leur disponibilité de temps et personne ne leur demanderait de rendre compte des raisons de leur célibat. Les attentes des paroissiens envers les responsables, les anciens ou le pasteur, n'empêcheraient pas ceux-ci de passer beaucoup de temps, détendus et heureux, mon cher Étienne, auprès de leurs enfants et de leurs conjoints. Ainsi, leur charge serait rendue heureuse et non pénible, avec en note Hébreux 13, 17, et ils auraient la possibilité de remplir les conditions bibliques requises d'un responsable quant à sa famille. 1 Timothée 3, 4. Par-dessus tout, une des marques essentielles d'un homme de Dieu serait de savoir exprimer en parole, en acte et en temps, son amour et son affection pour son entourage, à commencer par sa famille, notamment ses enfants s'il en a, il en va de même pour une femme de Dieu. Une telle communauté ferait envie à tous ceux qui l'observeraient. Elle serait beaucoup plus efficace quant à la proclamation de la vérité de l'Évangile que toutes les déclarations publiques, les pétitions et les campagnes d'information. Elle serait une arme redoutable pour combattre le mal dans notre société, car elle saurait ouvrir les cœurs à la grâce plutôt que les refermer sur les condamnations. Elle serait une avant-première du ciel, telle est la volonté de Dieu pour son Église. Fin de citation. Page 246 247. Tu as l'auteur à l'écran, Jonathan Hanley. Alors pourquoi j'ai cité ce texte qui a certaines particularités, hein, c'est parce qu'il reflète quand même bien ce à quoi nous avons réfléchi au service évangélisation et au collège pastoral. Ce type de vie d'église qui fait envie, qui invite sans pour autant taire, mais au contraire en proclamant d'autant plus fort la vérité de l'Évangile. Revenons à quelques éléments maintenant, deux éléments de conclusion, enfin ces deux pistes. Les textes de la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure que il y avait beaucoup de, dans les lettres de Paul de, d'éléments pratiques. Alors j'ai tenté, mais alors, c'est pas exhaustif et c'est en plus certainement imparfait. J'ai tenté une petite liste. L'épître aux Romains, Romains 14 à 16 pour aller droit, 12 à 16, hein. 12 à 15, ouais, pardon. Oui, en fait, le chapitre 16, c'est des salutations, alors je ne veux pas le mettre. Mais 12, à partir du chapitre 12, vous avez toutes sortes de recommandations pour la vie interne à l'Église, pour la vie externe, les relations de l'Église avec les autorités, par exemple, ou des chrétiens avec les autorités. Et là, tout y est. Tout. Ça va de l'égoïsme du pique-assiette en passant par le pardon, ça passe par l'hospitalité. Enfin, il y a toutes sortes. On a un florilège, là, de recommandations qui, pour certaines d'entre elles, en tout cas, ne sont pas propres aux chrétiens, mais dont, à l'époque de Paul, les chrétiens se sont fait porteurs lorsqu'elles étaient fondées, lorsqu'elles correspondaient au fondement de l'Évangile. Donc voilà, on a des chapitres, là. On a de quoi étudier. Si vous craignez que peut-être on ait un genre, dans les groupes de maison, par exemple, des genres de clubs où on regarde un peu comment vivre entre gens de bonne compagnie en oubliant qu'on est une église avec un fondement biblique. Mais rassurez-vous, il y a des dizaines, des chapitres entiers sur le sujet qui va nous occuper pendant cette année. Romains 12 à 15. Également 1 Corinthiens 10 à 16. Cette question qui nous a beaucoup occupé sur le rôle des femmes, où on parle de la coiffure des hommes et des femmes et ce genre de choses, mais ce sont des textes extrêmement pratiques que Paul donne pour la vie pratique des églises, pour les relations entre chrétiens dans les églises et autour d'eux. Donc là on a encore combien j'ai mis de chapitres, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 16 chapitre 13 sur l'amour mutuel, sur l'amour qui accepte tout, etc., etc. On a énormément de textes. Je poursuis. Alors, j'ai pas retenu toutes les épîtres, parce qu'à mon avis, il n'y a pas forcément... peut-être quelques versets, oui, qui m'ont échappé. Mais j'en arrive. À Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitres 5 et 6. De nouveau, nous avons des recommandations avec ce fameux fruit de l'esprit qui est donné au chapitre 5. Si vous prenez les œuvres de la chair, c'est essentiellement des comportements entre êtres humains et les fruits de l'esprit. C'est pareil, peut-être une discussion sur le mot pistis que certains traduisent par foi et d'autres par fidélité. Et là, on peut avoir une discussion sur le fait que si c'est foi, c'est pas j'ai pas foi en vous, encore que je vous fais confiance, mais c'est foi en Dieu à ce moment-là. Certains pensent qu'il s'agit plutôt des relations entre êtres humains et mettront fidélité, car le mot en grec laisse les deux choix. Alors, voilà pour Galates. Après, il y a Éphésiens. Éphésiens 4 à 6, de nouveau, vous avez un florilège de recommandations pratiques. Et là, ça va jusque dans les relations domestiques, puisqu'il est question de relations entre mari et femme, de relations entre enfants et parents, de relations entre esclaves et maîtres, puisque l'esclavage existait encore à l'époque. Et puis, vous avez toutes sortes... c'est là qu'il y a la fameuse image du soldat la panoplie du soldat qui reflète toutes sortes de qualités spirituelles qui se traduisent aussi dans la vie relationnelle. Alors j'ai marqué ensuite quelques chapitres de Colossiens, chapitres 3 et 4 de Colossiens, et puis ensuite de 1 Thessalonicien et de 2 Thessalonicien. Ouais, on a beaucoup de sujets d'étude. Alors on pourrait s'amuser à faire par exemple un genre de concordance spécialisé de toutes ces recommandations, peut-être qu'à la fin de l'année nous y serons arrivés, toutes ces recommandations pratiques de l'apôtre Paul, et je n'ai pris que l'apôtre Paul, vont nous servir de Bible. Ça va être notre Bible, au sens notre référence. Je dis, je ne cite que Paul, pensez au sermon sur la montagne. Est-ce que ce ne sont pas des paroles très... qui porte beaucoup sur la relation pas que l'inquiétude, par exemple, ou mais les béatitudes. Les béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, par exemple. C'est pas des relations, ça. Etc. etc. Alors, je vais terminer mon introduction en vous donnant les 11 les 11 chapitres qui ont été réfléchis par le Collège Pastoral et par les animateurs de groupe. On va faire ces 11 chapitres, j'espère, d'ici au mois de juin. On verra bien hein, si on y arrive ou pas. Si on a besoin de plus de temps ou si on va très vite parce que tout est clair, mais on aura fini plus tôt ou bien on continuera. On verra, je ne sais pas. Alors, premier chapitre, la variété. Alors, c'est le chapitre sur lequel les animateurs ont déjà travaillé et qui sera l'objet du groupe de maison de la semaine prochaine. La variété. Alors, c'est un thème qu'on a déjà abordé. Variété de culture, de génération, de milieux sociaux, force ou faiblesse. Notre idée, c'est de dire qu'il y a certainement des forces, mais indubitablement, il y a aussi des faiblesses et des choses difficiles à cause de la variété. Mais nous parlerons, et que voyons-nous dans la Bible ? Il y a eu déjà des difficultés à cause de la variété, déjà dans le Nouveau Testament. Alors, 2000 ans après, on a toujours. Nous en parlerons. Deuxième chapitre, l'implication de chaque. Quelle place donner au don de l'esprit ? Alors, c'est à la fois vertical et horizontal, c'est-à-dire vertical, ma relation à Dieu, je reçois ce qu'il me donne par son esprit. Et de l'autre, comment est-ce que ça doit s'imposer aux autres ? Est-ce que je dois au contraire me l'imposer ou les autres peuvent m'y encourager ? Quelle place donner au don de l'esprit dans l'implication que nous avons tous ou à laquelle nous sommes tous appelés dans la vie de la communauté ? Un sujet dont j'ai un peu parlé tout à l'heure en utilisant deux images. L'accueil des personnes, j'utilise les deux images maintenant, hall de gare ou forteresse. Alors la forteresse, le principe, c'est qu'on est bien dedans, mais qu'il n'y a personne qui rentre. Le principe d'une forteresse. Le hall de gare, tout le monde y rentre, mais on n'y reste pas. Et il n'y a rien qui s'y passe, sauf quand il y a des grèves. Oh là, il y a tout qui s'y passe. Si on accueille des gens, mais que nous n'avons pas un esprit maison, un lieu où les accueillir, eh bien, c'est un hall de gare dans lequel nous les accueillons. Ils nous font passer. Si nous avons un esprit maison, nous sommes tellement bien ensemble que notre église n'est qu'une forteresse et que personne n'ose, ne peut y entrer, nous ne remplirons pas notre mission. L'accueil des personnes, hall de gare ou forteresse. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, la place des enfants. Font-ils partie de l'Église ? Alors, ne voyez là aucune remise en cause de notre doctrine. Je vous rappelle, c'est pas doctrinal, ça. Ceci dit, qu'est-ce que nous trouvons dans la Bible ? Quelle est la place que nous devons donner aux enfants ? Est-ce que c'est seulement une fois par an dans un culte au mois de juin ? Est-ce que c'est certaines personnes dévouées qui vont s'en occuper ? On est bien content qu'elles vous en débarrassent. C'est quoi la place des enfants ? Surtout s'ils font du bruit, si on a un peu de mal. Il y a tout de suite des questions qui viennent. Hein. Voilà. Alors ensuite, la place des faibles. L'idée de la force. Alors on a été prudent. L'idée de la force. C'est-à-dire, c'est quoi quelqu'un de fort ? Moi je me souviens, je pense, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, des dernières phrases de Thierry, qui disait « Qu'est-ce qu'un chrétien béni ? Qu'est-ce qu'un chrétien fort ? Qu'est-ce que quelqu'un de faible ? Vous savez, vous avez déjà vu ces Africains, je ne sais plus de quel pays ils sont, qui courent le 10 000 mètres ? Vous les regardez comme ça, vous avez l'impression que vous faites ça, ils tombent. Allez les suivre sur 10 000 mètres. Ils vous laissent, ils vous mettent, je ne sais pas combien de kilomètres dans la vue. Ils ont l'air faibles, les Éthiopiens, merci. Ils ont l'air faibles. Mais alors là, attention, sur 10 000 mètres, ils craignent personne. Hein. Si, maintenant, s'il y a un peu de concurrence, je crois, dans les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qui est faible? Qui est fort? C'est des questions dont il nous faut parler. Et puis l'idée de la tolérance, puisque un des enjeux de la faiblesse et de la force, amené par Paul en Romains 14, hein, c'est d'être tolérant. Que celui qui se pense fort soit tolérant à l'égard de celui qui est faible. Voilà. Nous discuterons de tout ça. Alors on a le droit même de ne pas être d'accord. Hein, c'est comme M. Dubarry nous y invitait d'ailleurs. L'un pense une chose, puis à un autre endroit c'est autrement. Voilà. Il n'y a pas forcément la bonne conclusion à ces questions. Alors le point 6, on est bien sur le 6 là. Les conflits sont-ils légitimes? Comment les résoudre? Vaste question. Alors les conflits, on en parle souvent dans le couple, par exemple, dans les préparations au mariage. On en parle dans le milieu professionnel. Osons en parler dans l'Église. Nous en avons eu. Nous en sommes sortis plus ou moins bien. Et peut-être c'est bien si on approfondit un petit peu ce sujet. Alors, le point 7. La vie privée et l'exhortation. La liberté individuelle face à la responsabilité communautaire. Vous vous souvenez de ce que cet auteur disait à propos des célibataires? Je prends celui-là, mais il y en a d'autres, peut-être, qui disaient que les célibataires ne sont pas obligés de rendre compte des raisons de leur célibat, quelque chose comme ça. Il y avait d'autres exemples. L'idée, c'est que on va. Jusqu'où va l'exhortation fraternelle, entre guillemets? Jusqu'où a-t-elle le droit d'aller dans la vie privée de l'autre? Dieu a le droit d'aller à 100% dans nos vies privées, oui. Mais mon frère ou ma sœur, est-ce que j'ai le droit d'aller dans sa vie privée? C'est une question. Alors, vis-à-vis des autres confessions chrétiennes, pour le peu que j'ai pu en discuter, nous sommes identifiés comme allant déjà pas mal loin dans la vie privée. C'est-à-dire que on pose parfois des questions, nous les pasteurs, et que d'autres pasteurs dans d'autres églises ne n'oseraient pas poser. Voilà. La liberté individuelle face à la responsabilité communautaire, c'est-à-dire l'idée de est-ce que je peux faire ce que je veux? Je suis libre. Je ne veux pas rendre de compte à mes frères et sœurs, donc je fais ce que je veux. Sauf que mon comportement en tant que membre de la communauté va influer sur les autres, aura des conséquences peut-être sur les autres. Et donc, je ne fais pas ce que je veux. Alors, l'autorité, le pouvoir, qui la détient et dans quel domaine? C'est aussi une des questions que nous avons plusieurs fois évoquées avec Thierry. La question de l'autorité. Alors on dit tous l'autorité c'est le Seigneur qui l'a, on a raison d'ailleurs, mais au vécu, il y a des ressorts de pouvoir parmi nous, il y a des craintes, peut-être on prête des intentions, ou peut-être certains sont tentés par l'orgueil. Je ne m'exclus pas de tout ce genre de choses. Ce sont des vraies questions qu'il faut aborder avec courage. Et finalement, d'arriver à dire qui a l'autorité, pourquoi, comment, sur quoi, sur qui. Le 9e chapitre, on approche de la fin. Hein, la fonction de notre Église. Et là, c'est une question sur laquelle je me suis fait corriger. Une fois que je présentais ce chapitre, c'est pas à quoi me sert-elle qu'il faut dire, Jean-Marc, c'est à quoi puis-je servir à l'Église? Eh bien non. Moi, je propose, en écho à nos réflexions au Collège pastoral, que nous posions la question, honnêtement, qu'est-ce que je vais chercher à l'Église? Qu'est-ce que je veux recevoir de l'Église? À quoi me sert-elle? Oui. Ça ne veut pas dire que je suis un sale profiteur. Ça veut dire que j'ai des besoins que l'Église peut éventuellement combler. la fonction de notre Église, aquam sert-elle ? Attente et fausses attentes. Alors Étienne et moi, des fausses attentes, on en a cité quelques-unes cette semaine encore, je ne veux pas les dire, parce que, mais il y a parfois vraiment de fausses attentes. On place sur l'Église des fonctions qu'elle n'a pas. Dixième chapitre, la fonction de notre Église dans la société. À quoi servons-nous ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? À quoi notre Église sert à la ville de Mulhouse, au monde, à la France, je ne sais pas. Souvenez-vous que nous sommes formés pour servir. Alors servir à la construction du corps, mais le corps lui-même, il est dans le monde et il est là pour servir à quelque chose. Je pense qu'il est utile de se poser la question, à quoi servons-nous en tant que communauté dans ce monde ? Et nous avons déjà partiellement des réponses du fait de notre vécu. Et enfin, dernière question, les relations avec les autres confessions chrétiennes, c'est un peu petit là, hein. Voilà. Ouverture, prudence, absence. Nous sommes à l'heure actuelle dans de bonnes relations avec des tas de gens. Ça vaudrait peut-être la peine d'en discuter et de dire nos craintes, nos désirs, les vécus des uns et des autres dans ce domaine à l'égard des autres confessions. Donc c'est encore quelque chose, un thème sur les relations. Mais cette fois-ci, les deux derniers thèmes, c'est les relations en tant que communauté avec l'extérieur. Il y aura peut-être d'autres thèmes, mais enfin, on s'est arrêté à 11. Alors, ces thèmes sont plutôt horizontaux, vous l'avez noté, hein, et je l'avais dit, j'avais annoncé. Ceci dit, l'approche verticale de la piété de chacun, du recours à Dieu, elle est posée d'entrée et elle sera permanente. J'en veux pour preuve que dans les groupes de maison de la semaine prochaine, on est parti sur des textes de la Bible et on est bien sur cette relation à Dieu qui va fonder nos relations entre nous. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir au nom des animateurs de groupe qui ont amélioré le premier jet qu'avait fait le collège pastoral. Ceci dit, s'il y a des personnes qui veulent compléter, c'est largement possible. Compléter, corriger, s'exprimer. Moi, j'ai fini mes notes.
Moi, j'ai jamais compris autorité, c'est pas autoritarisme.
Ah ben, c'est sûr que la remarque, c'est autorité pour le point 8. Hein. Oui, 8. L'autorité, le pouvoir qu'il a, c'est pas l'autoritarisme, effectivement. Mais il faut en parler. Est-ce que dans les attitudes de ceux qui ont une autorité sur tel et tel domaine, est-ce qu'il y a des choses qui sont perçues comme de l'autoritarisme, etc. On s'en défend, mais en même temps, des fois, on est dedans quand même.
Je ne comprends pas la question 11, les autres confessions chrétiennes. Je pense pour moi, j'ai dit, il n'y a que Jésus-Christ qui est notre sauveur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça avec les autres confessions chrétiennes ?
Les autres confessions chrétiennes, c'est... alors, les autres évangéliques, la question sera peut-être assez vite réglée, encore que, bon, il y a parmi nous des différences qui pourraient être évoquées. Après, il y a l'Église réformée, l'Église luthérienne, l'Église catholique, l'Église orthodoxe. Voilà. C'est des confessions chrétiennes.
Qu'est-ce qu'on fait avec eux ?
La question elle est là. Quelles ouvertures, quelles relations, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement ensemble, ouais. Ou avec l'un plus qu'avec l'autre, etc. Des remarques, des questions ? Oui ? Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas Monsieur Du Barry. Oh là là! Alors, Monsieur Du Barry a été un personnage important, une personne importante de l'association baptiste. Étienne serait mieux placé que moi pour en parler, alors je me lance. Il a été pasteur de l'église de Nîmes pendant de longues années.
À l'époque,
Il a aussi été dans les responsables de l'association baptiste pendant un certain nombre d'années aussi. Et il a écrit plusieurs livres, dont celui que j'ai cité. Il est décédé depuis de nombreuses années, puisque l'association baptiste a été fondée, sauf erreur, en 1921, et qu'il a participé, je crois, à ce moment-là, à la fondation de l'association baptiste, sauf erreur.
Oui.
Hein, il a été dans les premiers.
Il a été actif avec les quelques-uns qui ont pensé que c'était pertinent de créer une union d'église qui est devenue l'association baptiste. En 1921, il est de la fin du 19e siècle.
Il aurait pu, mais je trouve qu'il n'est plus de ce. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas cité. Hein. D'autres remarques, questions? Bien, alors, je vous souhaite une bonne année d'études. Donc, ce thème va être décliné dans les groupes de maison, études bibliques et certains cultes. Pas tous, hein. Pas tous, mais un certain nombre de cultes. Voilà, à commencer par le culte de dimanche, normalement. On va prier. Nous en remercions, Seigneur, pour ta bonté envers nous, parce que tu sais de quoi sont faites nos relations, tu sais quelles sont les choses qui nous motivent, parfois ce n'est pas bien joli, et parfois c'est très beau. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la sanctification. Merci pour le fait que nous sommes appelés ensemble et nous devons vivre ensemble. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses cette année d'études sur ce sujet de notre implication, notre rôle, notre place dans notre Église, la place de chacun, chacune. Et nous te prions que tu nous bénisses lorsque nous ouvrirons ta parole, lorsque nous serons à la recherche de direction pour notre vie de communauté. Bien, bénis-nous, Seigneur, et inspire nos paroles, nos lectures, nos actes, nos attitudes. Nous te louons, Seigneur. Amen.
Amen.